Article 3, rédigé le 11 juin 2008. Leur Union européenne à l'heure du nom de l'Irlande et de la présidence française. Instruit par les référendums sur le traité constitutionnel européen, où le non l'a emporté en France et aux Pays-Bas en 2005, tous les gouvernements européens ont prévu de faire ratifier par voie parlementaire le traité de Lisbonne, octobre 2007, sorte de substitut au projet de constitution. Tout sauf un, l'Irlande, car là-bas, le référendum est obligatoire pour ratifier un traité européen. Dans son écrasante majorité, la caste politique de ce pays a appelé à voter oui au référendum. Ministres et députés autochtones, sans parler de l'inévitable Kouchner, qui s'est invité en tant que guest star, ont dépensé beaucoup de salive pour convaincre les électeurs qu'il fallait voter oui. Et voilà que les électeurs irlandais, dans leur majorité, ont voté non. Du coup, la caste politique européenne se déchaîne, parlant de catastrophe et poussant des hauts cris devant le fait que 4 millions d'Irlandais, 1% du total européen, puissent ainsi décider du sort de l'Union européenne. Mais ceux qui s'étranglent d'indignation devant cette atteinte à la démocratie n'ont pas été choqués que les dirigeants français ou néerlandais aient ressorti une nouvelle version raccourcie, mais à peine changée du texte, rejetée par les électeurs en France et aux Pays-Bas, pour la faire voter cette fois par le Parlement. D'autres bonnes âmes s'indignent de l'ingratitude de ce peuple irlandais, présenté par tous les médias comme le principal bénéficiaire de l'Union européenne. Mais il faut croire que tout le monde en Irlande n'a pas bénéficié tant que cela de l'adhésion à l'Union européenne et que ceux qui en ont profité ne constituent pas la majorité par rapport à ceux qui, Europe ou pas, sont inquiets pour leur avenir. Le processus de mise en place de nouvelles règles de fonctionnement pour les institutions européennes sera donc de nouveau freiné. Mais on peut faire confiance à ces gens-là pour trouver une solution destinée à contourner le résultat du vote. Cela tombe évidemment mal pour Sarkozy, qui s'était fait une gloire d'avoir sauvé l'Europe en contribuant au traité de Lisbonne et à sa ratification par le Parlement en France. D'autant plus mal que cela arrive à peine 15 jours avant qu'il ne prenne pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne. Cela dit, le référendum irlandais ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. Après le non au référendum français et néerlandais, l'Union européenne n'a pas cessé de fonctionner. Il en sera de même après le référendum irlandais. L'Union européenne n'a pas été faite pour les peuples, mais pour les capitaux et les marchandises. Ce n'est pas l'expression électorale de la volonté des peuples qui arrêtera la machine. Quand l'Europe s'élargit au trust. Depuis 2005, l'Union européenne, bien qu'en crise, s'est même élargie en intégrant de nouveaux membres, la Bulgarie et la Roumanie. À la même date, la Slovénie a intégré la zone euro, après avoir rejoint l'Union en mai 2004, en même temps que sept autres pays de l'Est, les trois États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, ainsi que Malte et Chypre. Un an plus tard, Chypre et Malte ont adopté l'euro comme monnaie. Le 1er janvier 2009, la Slovaquie fera de même. Et il est prévu par les traités que les pays baltes, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie adoptent à leur tour l'euro, officiellement qualifié de monnaie commune, même si elle ne l'est pas vraiment, et nous y reviendrons. Dans divers autres domaines, l'Union européenne fonctionne également tant bien que mal. Ainsi, dans la foulée de la chute du mur de Berlin en 1989, puis de l'implosion de l'Union soviétique en 1991, l'Union européenne s'est considérablement étendue vers l'est du continent. Et bien avant qu'elle n'intègre officiellement 8 États est-européens en 2004, les capitaux ouest-européens, eux, avaient acquis droit de cité, sinon établi leur suzeraineté sur ces pays. Et cette année 2008, on a vu l'Union européenne célébrer en grande pompe l'intégration dans l'espace Schengen des 10 arrivants de 2004. Certes, cela signifie que près de 500 millions de citoyens des États de la zone Schengen et ceux d'autres pays qui ont obtenu un visa Schengen peuvent circuler dans cet espace commun sans avoir à subir de contrôle en passant d'un pays à l'autre. Ainsi, il est désormais possible d'aller du sud de l'Espagne au Cap Nord et de l'Irlande en Hongrie ou en Grèce sans devoir subir de contrôle frontalier ou douanier. Mais ce progrès réel s'accompagne, surtout pour les pays d'Europe de l'Est et leurs populations, d'un recul non moins important. Car rappelons que si la Pologne fait désormais partie de cet espace Schengen, des populations de Biélorussie, d'Ukraine qui, il y a quelques dizaines d'années, vivaient et parfois depuis très longtemps dans le cadre du même État, polonais ou auquel appartenait la Pologne, en sont désormais séparés par un nouveau mur. Même chose pour la Moldavie, où l'on parle la même langue que dans une Roumanie qui, d'ici peu, devrait rejoindre l'espace Schengen. En fait, pour des dizaines de millions d'Européens de l'Est, l'entrée dans l'espace Schengen signifie aussi la mise en place à leurs frontières orientales de moyens policiers et militaires accrus, de tout un attirail de barbelés et de systèmes de détection sophistiqués, qui coupe dans le vif de populations que l'histoire et la géographie avaient liées depuis longtemps. Cette Europe policière avance donc à grands pas. En juin dernier, Sarkozy a ainsi exposé devant le Parlement grec que la présidence française de l'Union se donnerait, entre autres, comme priorité de créer un corps européen de garde-côtes. Il s'agira de repousser du littoral sud-européen les migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient sur des bateaux d'infortune, tant sont nombreux ceux qui laissent déjà leur vie dans pareille expédition. Toujours en juin, mais à Luxembourg cette fois, les ministres de l'Intérieur des 27 ont adopté des dispositions renforcées à l'échelle européenne contre les immigrés en situation irrégulière, dispositions qui intégreront le pacte pour l'immigration, rédigé à l'initiative du gouvernement français. Sous couvert d'inciter les sans-papiers à regagner volontairement leur pays d'origine et de dissuader de nouvelles arrivées, il s'agit de redoubler d'efforts pour expulser ces migrants qui, en cas de résistance, pourront être bannis pour 5 ans du territoire de l'Union européenne, la durée de leur détention avant expulsion pouvant être portée à 6 voire à 18 mois. Fin mai, lors d'un voyage en Pologne, Sarkozy a tenté de se donner le beau rôle en annonçant que la France allait, en 2009, avec un an d'avance sur le calendrier, fut-il précisé, autoriser à s'installer librement chez elle les ressortissants des 10 pays admis en 2004 dans l'Union. Comme si la chose était admirable, quand de tous les États de l'ex-Europe des 15, seuls 5, dont la France, n'avaient pas encore levé les restrictions opposées aux citoyens des 10 États membres de 2004. Ou quand les services de l'Élysée précisent que la générosité française vis-à-vis du plombier polonais ne concerne ni le plombier bulgare ni le maçon roumain. Ces derniers doivent, comme tant d'autres immigrés, continuer à vivre dans la hantise d'un contrôle de police et donc de leur expulsion parce que leur pays reste soumis à un régime discriminatoire jusqu'en 2014. Tout cela rappelle seulement que les grandes puissances ouest-européennes qui dominent l'Union avaient mis, entre autres conditions à l'admission de ces pays, une restriction de 7 années à la libre installation de leurs citoyens dans le reste de l'Europe. Cette restriction, bien sûr, ne s'accompagnait d'aucune réciprocité à l'égard des Européens de l'Ouest voulant s'installer en Europe centrale, et encore moins pour les capitaux des groupes ouest-européens devant lesquels les barrières douanières intra-européennes ont disparu depuis longtemps. Cette Europe-là, si elle est celle des États, et d'abord des plus puissants d'entre eux, et celle des industriels et des banquiers, elle n'est certainement pas celle des peuples, même de ceux qui en font officiellement partie. Une union faite de rapports de force. Mais même sous cet angle d'une simple union économique entre États, celui qui intéresse finalement le plus la bourgeoisie, l'Union européenne reste loin de connaître un fonctionnement sans nuages. Depuis la création de la communauté européenne en 1950, en passant par ses élargissements et les avatars successifs du marché commun jusqu'à aujourd'hui, tout le fonctionnement de l'Union reste marqué par une contradiction fondamentale qu'elle porte comme une marque de naissance indélébile. L'opposition entre d'une part les intérêts nationaux de chacun de ses États constitutifs, qui sont en dernier sort ceux des groupes industriels et financiers de chaque pays, que défend contre leurs concurrents, y compris européens, chaque État face aux autres. Et d'autre part, l'intérêt vital qu'ont les bourgeoisies européennes à élargir leurs activités au-delà du cadre national et les moyens qu'elles mettent en œuvre pour cela. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, les futurs fondateurs de la communauté européenne, étaient sortis exsangues de la Seconde Guerre mondiale. Pour remettre en marche leur industrie, le charbon se trouvant souvent d'un côté d'une frontière et le minerai de fer de l'autre, il fallut en passer par le pool charbon-acier. D'abord entre la France et l'Allemagne en 1950. En s'élargissant l'année suivante à l'Italie, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, il devint la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. À la fin des années 40, avec le redémarrage économique que favorisa le plan Marshall, un plan américain qui considérait l'Europe sans s'embarrasser de ses frontières intérieures, les diverses bourgeoisies européennes durent bien se rendre compte qu'il était vital pour elles d'abaisser les barrières douanières. Le choix était simple, soit elle permettait aux marchandises de circuler, soit le petit mieux économique s'étouffait. Cela ne relevait pas d'un quelconque choix européen, comme on nous le présente aujourd'hui, mais d'une compréhension très empirique et très prosaïque de leurs propres intérêts par les bourgeois de l'époque. Ce n'est que plus tard, après qu'ils eurent constaté qu'il ne suffisait plus d'abaisser les barrières douanières pour accélérer la circulation des marchandises, tant subsistaient de législations différentes aux effets protectionnistes dans chaque État européen, que l'idée s'imposa aux bourgeoisies d'Europe, de l'Ouest, d'une union qui soit désormais un peu plus politique. Et progressivement, au fil de près de 60 ans d'existence chaotique, ce qui allait devenir l'Union européenne, on finit par mettre en place une forme politique d'union entre États. Cela ne se passa pas sans soubresauts et maintes réticences, car même à 6, au tout début de cette évolution, la coexistence d'intérêts rivaux posait des problèmes tels que cela pouvait déjà bloquer leur mini-union. Ainsi, si la France prit alors l'initiative de la communauté européenne de défense, elle allait peu après, sous De Gaulle, rejeter cette même CED, jugée trop attentatoire à l'indépendance nationale. Même situation en 1965, quand De Gaulle provoqua la crise de la chaise vide. La France refusa pendant 7 mois de siéger dans les instances communautaires, au motif que la Commission européenne aurait proposé des réformes institutionnelles d'inspiration fédéraliste. Finalement, un compromis fut trouvé et les représentants de l'État gaulliste revinrent à Bruxelles. Parmi les premiers règlements qu'adoptèrent les 6 en tant que tels furent ceux qui instituèrent la PAC, une politique agricole commune, en 1962. La France, encore largement agricole, avait mis comme condition à l'approfondissement de la communauté économique européenne, dont l'industrie allemande était la plus à même de profiter, que cette communauté subventionne ses nombreux agriculteurs. Cette situation allait cependant se modifier. Le nombre des paysans diminua rapidement dans les années 60 et 70. L'industrie absorba la plus grande partie de ceux qui allaient quitter la terre. Cette question de la PAC allait ressurgir après 1973 et le premier élargissement de la communauté qui la fit passer de 6 à 9 avec l'arrivée de la Grande-Bretagne, du Danemark et de l'Irlande. La France avait longtemps mis son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne, que De Gaulle qualifiait de « cheval de Troie de l'Amérique ». Au début des années 70, les liens réels ou supposés de la Grande-Bretagne avec l'autre rive de l'Atlantique n'avaient pas changé. En revanche, Les rapports de force de ce côté-ci de l'océan, entre les deux puissances dominant la communauté européenne, avaient évolué dans un sens qui ne faisait pas l'affaire de la France de Pompidou. En effet, l'Allemagne s'affirmait désormais, avec de plus en plus de force, comme la première puissance économique du continent. Dans ces conditions, introduire la Grande-Bretagne dans le concert européen, avec la bénédiction de la France, visait tout simplement à faire contrepoids à l'Allemagne en Europe. Cependant, le Royaume-Uni était déjà, et depuis longtemps, un pays dans lequel la paysannerie ne pesait plus d'un grand poids, en tout cas démographique et politique. Et l'on vit rapidement la première ministre britannique, Margaret Thatcher, s'indigner, puis refuser de verser sa quote-part au titre d'une PAC dont la bourgeoisie anglaise n'avait que faire. La dame de fer exigeant « I want my money back ». En anglais, « Je veux qu'on me rende mon argent ». Ouverte ou larvée, de telles crises n'ont cessé d'émailler plus d'un demi-siècle d'histoire des institutions européennes. Leur cause, les rivalités interétatiques, et d'abord celle entre les trois États qui dominent le continent, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, et leurs conséquences, une démarche entravée de cette union, n'ont guère varié durant tout ce temps. Institutionnalisée dans le fonctionnement de l'Union. D'autant plus que, pour se prémunir contre leurs alliés rivaux au sein des instances censées piloter l'Union européenne, les pays les plus puissants avaient posé comme règle qu'une décision ne pouvait être prise qu'à l'unanimité. Cette règle avait d'ailleurs l'assentiment des États moins puissants, car elle leur semblait les préserver des appétits hégémoniques des trois grands. Cela en tout cas dans le cadre d'une Europe qui, de 57 à 95, s'était élargie par petites touches depuis le noyau initial de 6 membres, une Europe relativement homogène, car englobant des pays dont les niveaux de développement économique et social restaient dans des limites comparables. Mais avec l'élargissement de l'Europe à 15, puis en 2004 à 25, et depuis 2007 à 27, cette obligation de l'unanimité, même aménagée, menace de bloquer tout le système. Et c'est d'autant plus insupportable aux grandes puissances quand un seul État, surtout considéré comme plus faible, entre guillemets, perd une occasion de se taire, comme disait Chirac avec mépris de la Pologne, quand, pour protéger certaines de ses positions, elle refusait d'aménager le traité de Nice qui gelait le mode intérieur de prise de décision en empêchant de passer outre à l'opposition des minorités sur certains sujets. Ce sont les conséquences sur le fonctionnement des institutions européennes qu'ont cherché à dépasser le traité constitutionnel de 2005 puis celui de Lisbonne aujourd'hui. Tous deux ont pour point commun, outre de doter l'Union d'une présidence dont l'avenir dira si elle ne sera pas que de figuration, d'élaborer un système fort complexe de majorité pour certaines prises de position, système qui vise à ménager non pas tant les petits États que la possibilité pour les poids lourds de l'Union de s'appuyer sur une minorité de vote pour bloquer ce dont ils ne voudraient pas. Et d'égoïsmes nationaux rivaux. On a eu un exemple récent de ce type de problème, de la façon de le résoudre et de leurs enjeux, dans le début sur la fixation du budget de l'Union européenne pour la période 2007 à 2013. Durant cette période, l'un des postes de dépenses les plus importants de l'Union a trait aux frais liés à l'intégration des 12 nouveaux États membres, essentiellement de l'Est. Cela n'a rien à voir avec une quelconque générosité à laquelle l'Union n'a jamais habitué personne, mais avec l'intérêt bien compris des grands groupes industriels et commerciaux occidentaux. Car s'ils sont intéressés à produire là-bas, car les coûts salariaux y sont 4 à 10 fois moindres qu'à l'ouest du continent, encore faut-il qu'existent des infrastructures, autoroutes, voies ferrées à grand débit notamment, pour exporter plus facilement les Dacia de Roumanie, les yaourts Danone et les meubles Ikea produits en Pologne, etc. Et pour construire les dites infrastructures, il n'y a pas de problème, Les Bouygues et leurs homologues allemands, anglais ou autres ne demandent que ça, surtout quand leurs profits sont garantis sur facture par l'Europe. Alors, bien évidemment, tout cela a un coût, et il n'est pas mince. Du coup, le Parlement européen avait demandé que le budget de fonctionnement de l'Europe passe, sur la période considérée, de 1% à un malheureux 1,18% du PIB des États membres pour aider, entre guillemets, les nouveaux pays adhérents. Du moins, c'est ainsi que la chose était présentée, à combler une partie de leur retard en matière d'infrastructure. Même si cette demande du Parlement européen était soutenue par une majorité d'États membres, elle se brisa sur le front commun des pays les plus riches de l'Union. Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni lui opposèrent leur veto. Certes, leur trust aurait finalement été parmi les principaux bénéficiaires d'un accroissement du budget européen, mais les grandes puissances du continent préféraient encore garder cet argent pour subventionner directement leur propre grand capital et sans devoir le partager avec d'autres. Faut-il s'étonner que la presse française n'ait pas fait ses gros titres sur ce bel exemple d'égoïsme des États riches, au détriment d'une majorité de plus pauvres et d'une solidarité européenne plus proclamée que réelle? On en a une autre illustration avec la question de la politique agricole commune. Après sa création en 1962, à la demande de l'État, d'une France encore largement rurale, le PAC a longtemps été la seule véritable politique commune européenne. Mais le temps a passé et l'évolution économique a fait son œuvre. La France n'a plus qu'une paysannerie devenue marginale en nombre. Quant aux grands groupes agroalimentaires et agro-industriels français, il y a belle lurette que leur champ d'activité a dépassé non seulement le cadre d'une agriculture régionale, voire nationale, pour se développer à une échelle qui dépasse et de loin l'échelle de la seule Union européenne. C'est au niveau de la planète tout entière que ces groupes opèrent. Et la bourgeoisie française a désormais, comme d'autres, bien des raisons d'estimer que le financement de la PAC, un des postes les mieux dotés du budget européen, représente une masse d'argent considérable qui, si elle va actuellement aux paysans, entre guillemets, en fait d'abord aux grands propriétaires fonciers et accessoirement aux autres, en France comme ailleurs, pourrait être au moins en partie réorientée plus utilement pour elles. Par exemple, sous forme de financement européen du développement structurel, comme on l'a vu plus haut dans le cas des pays de l'Est, ou des fonds dits régionaux dont une grande partie alimente, directement ou non, les caisses des entreprises. En l'occurrence, il n'y a plus d'opposition réelle sur le sujet entre la bourgeoisie française et ses homologues allemandes ou britanniques. Et elle pourrait, elle aussi, réclamer, comme Margaret Thatcher en son temps, qu'on lui rende son argent. Les bourgeois considérant que les fonds européens ou étatiques nationaux doivent leur revenir d'une façon ou d'une autre et qu'on tord le cou à une PAC qui a fait son temps. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple à avouer pour la classe politique d'ici, car elle doit essayer de ménager cette partie de l'électorat sur laquelle, entre autres, la droite au pouvoir s'appuie traditionnellement. Comment procédera Sarkozy, qui a déclaré qu'il allait faire de la question de la PAC une des priorités de la présidence française? On le verra bien. Mais il est probable qu'en matière de redéfinition de la PAC, comme on dit en haut lieu, ce sont des nouveaux venus, tels la Pologne, avec sa petite paysannerie nombreuse, vivant mal sur de petites et toutes petites exploitations, qui risquent de faire les frais d'être arrivés dans l'Union 50 ans après la France. Et surtout, de ce que cette dernière et ses pairs en puissance à la tête de l'Union européenne se moquent comme de leur premier scrutin européen du sort de la grande majorité des 495 millions d'habitants de l'Union. Et comment pourrait-il en aller autrement quand, par exemple, confrontés aux problèmes d'approvisionnement énergétique, les États européens pratiquent le chacun pour soi, écrasant au passage les plus faibles? Ainsi, la France, qui négocie directement avec le russe Gazprom des participations dans le gazoduc de la mer Noire, ou l'Allemagne, avec le même, pour la construction d'un gazoduc sous la Baltique, en se moquant du fait que cela laisse les pays baltes, la Pologne et d'autres pays de l'Est, à la merci de qui à la main sur les vannes des gazoducs actuels. Attachés au char des puissances impérialistes qui dominent le continent, les États qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 et après ne sont, aux yeux de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, que des associés de second ordre et surtout, ils font désormais partie de leur sphère d'influence. Cela se manifeste encore dans leur situation par rapport à l'euro, cette monnaie commune qu'ils sont tenus d'adopter. Sous le contrôle des institutions européennes qui, telles des huissiers, agissant pour le compte des grandes puissances, vérifient et exigent que les nouveaux venus remplissent tous les critères dits de convergence, notamment en matière d'équilibre et de déficit budgétaire. Autrement dit, les grandes puissances, France, Allemagne, qui ont présidé au lancement de l'euro, leur imposent non seulement une politique d'austérité dont leur population est la seule à faire les frais, mais des critères d'endettement, notamment sur lesquels, on le sait, la France et l'Allemagne se sont plusieurs fois allègrement assises. Et pas question pour les pays d'Europe de l'Est de refuser d'intégrer la zone euro. Contrairement à la Grande-Bretagne, pour laquelle, puissance oblige, l'Union européenne a consenti une dérogation permanente en la matière, et en bien d'autres d'ailleurs. Une union qui va clopin-clopant, mais où ? Pour la grande bourgeoisie d'Europe, la question de la place et du statut de tel ou tel pays par rapport à l'Union, comme membre ou comme candidat, et associé tel la Turquie, en tant que participant ou pas à la zone euro, n'est pas forcément la plus décisive. Certes, face à ses rivaux nord-américains et japonais, le grand capital européen aimerait constituer un ensemble le plus important possible et placer sous sa coupe. Et de ce point de vue, l'Union européenne est un relatif succès pour des bourgeoisies que la division du continent en une multitude d'États a épuisé économiquement et politiquement à se dresser les unes contre les autres lors de deux guerres mondiales, ce qui au XXe siècle les a reléguées au second rang de la scène mondiale, en laissant d'autres puissances impérialistes, et d'abord les États-Unis, se hisser au premier rang. La création de l'Union européenne a été la réponse, contrainte et forcée, de bourgeoisies européennes confrontées à un déclin qu'elles cherchaient à enrayer. Mais la solution qu'elles ont finalement adoptée reste bancale et hautement contradictoire. Certes, les grandes entreprises européennes se satisfont fort bien de la situation actuelle, celle d'une union douanière européenne élargie, avec la coexistence d'États nationaux défendant les intérêts de leurs capitalistes, car ce qui intéresse au premier chef les capitalistes, c'est cette union économique. L'union politique, ils n'y sont certes pas hostiles, mais elle leur paraît moins indispensable. Le problème, c'est que les questions économiques et politiques sont étroitement entremêlées, et pas seulement au niveau de l'Europe. Ainsi, quand dans le cadre de l'Union européenne, des différences importantes de fiscalité rendent tel ou tel pays plus attractif pour les capitaux, et l'on ne se fait pas faute de laisser entendre aux habitants de chaque pays de l'Union que ce serait le cas partout, sauf bien évidemment chez eux. Cet aspect économique des choses se trouve dans la dépendance étroite de décisions politiques, qui, étant de la compétence exclusive des autorités nationales, échappent aux instances européennes. Même chose pour les distorsions de concurrence d'un bout à l'autre de l'Europe, même si, officiellement, on s'efforce de les atténuer, sinon de les faire disparaître. On en a un autre exemple avec l'euro et la Banque Centrale Européenne. La création de cette monnaie, dont le Luxembourg vient de fêter les 10 ans d'existence, et de la BCE, émettrice et garante de l'euro, a constitué une avancée incontestable. Après une période où le franc, le marque, la lire, etc., étaient restés des instruments des rivalités entre les États nationaux et leur bourgeoisie, Celle-ci, à mesure que la communauté européenne progressait et que les bourgeoisies considérées y trouvaient amplement leur compte, ont préféré essayer de coordonner leur politique monétaire. Il y eut ensuite les tâtonnements de ce que l'on appela le SME, Système Monétaire Européen, avec son serpent, autrement dit la limite des variations dans lesquelles chaque monnaie nationale était autorisée à évoluer. Et puis, finalement, il fut décidé d'unifier le tout en une monnaie commune. Pour les pays qui la partageaient, il n'était désormais plus possible de procéder à une dévaluation compétitive de leur monnaie nationale comme auparavant. Une mesure unilatérale qui avait pour but de doper les exportations du pays concerné au détriment de ses partenaires et concurrents, avait comme conséquence pour sa population une baisse de son niveau de vie puisqu'elle devait supporter un renchérissement des produits importés. Mais cette avancée, qui ne concerne d'ailleurs pas toute l'Union, puisque des États, la Grande-Bretagne, le Danemark et la Suède, ont obtenu, de fait ou de droit, la possibilité de se tenir à l'écart de l'euro, bute sur le fait que si la BCE, patronne de l'euro, fonctionne comme un organisme fédéral, l'Union européenne, elle, n'est pas une fédération d'États, avec ce que cela comporterait de centralisation et contrôle des décisions politiques au sommet. Et cela se manifeste dans ce que, même quand la monnaie européenne paraît forte par rapport au dollar d'une Amérique au bord de la récession, l'euro reste en fait bien faible. Et le commissaire européen aux affaires monétaires, qui participe aux réunions de l'Eurogroupe, le Conseil des ministres des Finances des pays de la zone euro, n'a certainement pas des pouvoirs comparables à ceux du secrétaire au Trésor des États-Unis. Quant à la Banque centrale européenne, faut-il qu'elle laisse grimper l'euro par rapport au dollar en maintenant des taux d'intérêt élevés, ce qui ne semblait pas gêner la bourgeoisie allemande jusqu'à récemment, mais provoquait les récriminations des milieux d'affaires français? Ou faut-il, comme le demandent ces derniers, rejoint maintenant par certains de leurs homologues d'outre-Rhin, chercher à refaire baisser l'euro? Mais quand des désaccords opposent sur ces questions les deux principales puissances de la zone euro, la France et l'Allemagne, il n'y a aucune autorité centrale, instituée et reconnue au niveau de toute l'Union, qui ait la charge et la possibilité de résoudre, et à défaut trancher, le problème. C'est là que cette union économique trouve ses limites. Des limites que les classes dirigeantes et possédantes de l'Europe ne peuvent ni ne veulent dépasser. Un cadre européen désormais dépassé que la bourgeoisie a renoncé à unifier. Car traité de Lisbonne ou pas, et malgré la monnaie commune, même quand la Commission européenne titre son rapport annuel 2006 « Passons à la vitesse supérieure », personne ne s'avise de penser qu'il faille, et a fortiori que l'on puisse, unifier politiquement cette Europe-là. La bourgeoisie serait d'ailleurs bien incapable de faire disparaître, même au niveau de son union, ces archaïsmes que sont des dizaines d'États se divisant un demi-milliard d'Européens, quand des pays comme l'Inde ou la Chine en regroupent plus du double dans un cadre commun. Et plus encore, quand les États-Unis d'Amérique constituent un État, fédéral certes, mais unique, avec une direction unique pour une population comparable à celle de l'Europe. En fait, cela fait au bas mot un siècle que les problèmes de l'humanité se situent à une échelle bien supérieure, celle de la planète tout entière. Et ce n'est pas un hasard si, au XXe siècle, les rivalités entre États capitalistes s'affrontant pour un repartage du monde ont tout naturellement trouvé à se régler dans une première puis dans une seconde guerre mondiale. Ces boucheries planétaires, ces dizaines de millions de victimes, ces destructions innombrables ont été le prix que l'humanité a dû payer pour ne pas avoir encore réussi à abattre les frontières des États dans lesquels étouffe toute l'économie et finalement la société, pour ne pas avoir su mettre un terme au morcellement anachronique de l'Europe. Certes, six décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les choses ont un peu avancé en Europe sous la forme de son union économique. Mais pas tant que cela, car cette union ne se donne même pas comme but à terme, d'unifier politiquement le continent. Alors, leur union européenne tangue, alternant des hauts et des bas, des crises, et ne parlons même pas à son propos d'avancées sociales. Là, si unification il y a, elle s'effectue par le bas. Et il ne pourrait pas en aller autrement. Car ce capitalisme qui attaque ici le niveau de vie des salariés, pourquoi voudrait-il des salaires plus élevés en Pologne ou en Roumanie, quand, selon les documents européens officiels, les écarts de salaire sont de 1 à 10 d'un bout à l'autre de cette Union européenne? Il ne faut pas s'étonner que les capitalistes ouest-européens fassent tout ce qu'ils peuvent pour maintenir les salaires au plus bas, partout où ils le peuvent. Et quand ils les relèvent, comme récemment à Dacia, en Roumanie, c'est contraint et forcé par les travailleurs en lutte. Cela, bien sûr, la bourgeoisie doit bien l'accepter, mais elle le fait à son corps défendant, parce que cette Europe dont font maintenant partie la Pologne et la Roumanie, c'est son Europe à elle et pas celle des peuples, ni des travailleurs. Et la bourgeoisie sait bien qu'il lui serait plus difficile de diviser, ici ou en Allemagne, les salaires par 10, que d'aller exploiter des travailleurs qu'elle peut encore payer 10 fois moins en Bulgarie ou en Roumanie. Alors, dans certains milieux politiques de gauche, ici ou ailleurs, il est de mise d'écraser une larme sur cette Europe qui serait celle du moins-disant social, celle des prétendus droits fondamentaux européens, réduits à moins que le minimum en matière sociale. Comme s'il pouvait y avoir une autre Europe dans le cadre actuel. Leur Europe, la voilà. Et si elle est à l'image de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, c'est qu'elle en découle et qu'elle est entièrement soumise aux intérêts de la classe des possédants. À cela s'ajoute le côté timoré des milieux politiques dits européens. Car même dans des domaines où cela ne pourrait faire aucun mal aux intérêts du patronat, celui par exemple des droits des femmes, ils renoncent par lâcheté à affronter les églises, les préjugés les plus réactionnaires et ceux qui les professent, pour ne serait-ce qu'exiger que d'un bout à l'autre de cette Europe soit reconnu le droit à la contraception, à l'avortement, au divorce. Mais comment s'en étonner quand, dans la patrie des droits de l'homme, qui n'est certainement pas celle des droits de la femme, il peut se trouver des juges pour casser un mariage au prétexte, avancé par le mari, de la non-virginité de son épouse. Problèmes mondiaux et bourgeoisie sénile. Tout au préparatif de sa prise de fonction de président de l'Union européenne pour 6 mois, Sarkozy pérorait ces derniers temps. Il s'imagine peut-être qu'à ce poste, strictement honorifique, à la tête d'une Union européenne sans réel pouvoir, il pourra plus facilement se faire applaudir que comme président de la France. On verra bien. Mais au-delà de son agitation habituelle, il fera comme ses prédécesseurs. Il gérera ce qu'il pourra pendant un semestre, autrement dit, pas grand-chose. Il suffit d'ailleurs de voir comment, avant même sa prise de fonction, la Commission européenne, qui représente l'ensemble des États de l'Union, a retoqué le projet d'Union méditerranéenne de Sarkozy parce qu'il s'annonçait comme un tremplin trop exclusif des entreprises françaises vers des pays du Sud. Bien entendu, les États qui n'y ont aucun intérêt, et plus encore l'Allemagne et l'Angleterre, les deux principaux rivaux de l'impérialisme français, que celui-ci aurait cherché à tenir écartés, ne voulaient pas d'un tel projet, du moins en l'état. Quant à l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie, qu'ont réussi à bloquer pour des raisons de politique intérieure la France, l'Autriche, Chypre et, dans une moindre mesure, l'Allemagne, Sarkozy va devoir sans doute revenir à la charge, mais pas forcément dans le sens qu'espèrent ses partisans. En tout cas, une majorité d'États européens, avec la Grande-Bretagne comme tête de file, souhaite une rapide adhésion de la Turquie. Dans la mesure où cette dernière dispose d'un statut d'association à l'Union européenne, qui répond déjà en grande partie aux besoins des industriels, commerçants et banquiers ouest-européens, les bourgeoisies de l'Union européenne ont pu se satisfaire de cette situation, mais la plupart préféraient la renforcer en institutionnalisant leurs liens dans le cadre commun. Et pendant qu'on discute gravement à Bruxelles et dans les chancelleries pour savoir si la Turquie est européenne ou pas, s'il faut admettre la Macédoine dans l'Europe, malgré la Grèce qui s'y oppose en arguant que le nom de cette ancienne république yougoslave serait déposé et appartiendrait au seul panthéon du nationalisme hellène, le monde avance, ou plutôt lui et donc l'Europe, menace de s'enfoncer toujours plus dans un ensemble de crises énergétiques, environnementales, sociales, économiques, financières. La liste n'est malheureusement pas close. Mais une chose est certaine, c'est à l'échelle de la planète que ces problèmes se posent. L'énergie ? Mais c'est évidemment à l'échelle de la planète que son problème se pose. Quand les gisements sont de plus en plus repérés par des satellites, pour lesquels, bien sûr, les frontières n'ont aucun sens ni aucune matérialité, ou quand l'or noir est extrait aussi bien des déserts que de l'Alaska ou des zones subtropicales, ou encore quand les tankers qui sillonnent les mers du globe voient leur contenu changer 10-20 fois de propriétaire avant d'avoir atteint leur port. Et quand les spéculateurs internationaux qui s'échangent d'un bout de la planète à l'autre des titres électroniques représentant ces cargaisons de pétrole, mais ce pourrait être toute autre matière première, agricole ou non, opèrent depuis New York, Londres, Paris, Tokyo, Sydney ou à peu près n'importe où et peuvent déstabiliser et jeter dans la misère des pays entiers. La pollution, les changements climatiques, mais depuis quand le phénomène El Niño se soucie-t-il des gardes-frontières et gardes-côtes d'Amérique du Sud? Et a-t-on vu le nuage de Tchernobyl, il y a 20 ans, s'arrêter à une quelconque frontière européenne, quoi qu'en ait dit mensongèrement alors les autorités françaises? Au XIXe siècle, dans une Europe pas tout à fait sortie de son retard féodal, la bourgeoisie avait, en Allemagne et en Italie, combattu de toutes ses forces pour unifier ces pays. Elle l'avait fait en brisant les barrières héritées du passé médiéval, en s'appuyant sur des révolutions quand elle le pouvait, et quand elle craignait trop ces révolutions, elle avait détourné à son profit, à force, dans l'Allemagne de Bismarck, des fantômes institutionnels de la monarchie. Mais cela, c'était hier, et même il y a bien longtemps au regard de la marge de la société, de ses possibilités et de ce qui l'entrave. Car cela fait bien un siècle que le capitalisme est devenu sénile, tout particulièrement en Europe, son berceau historique, bien vite devenu trop étroit pour lui. Et la bourgeoisie, aujourd'hui, serait bien incapable d'y changer quoi que ce soit. En particulier, elle n'a plus la force ni la volonté, si elle l'a jamais eue, de faire disparaître ces archaïsmes que sont plusieurs dizaines d'États différents regroupant moins d'un demi-milliard d'Européens. Alors, cela fait plus d'un demi-siècle que d'avancer en recul, la dite « construction européenne » piétine, sans que personne ne sache vers quoi elle se dirige et si même elle a une direction. C'est que la bourgeoisie, devenue sénile, n'est même plus capable de voir l'évidence de la nécessité. Car ce sont les nécessités économiques, politiques, sociales qui, dépassant le cadre national et même européen, posent d'emblée les problèmes à l'échelle de toute l'humanité. Se situer à une échelle moindre, c'est se condamner à ne pas même pouvoir les aborder. Vouloir les résoudre suppose de se situer dans une perspective mondiale, dans celle d'un monde enfin unifié, débarrassé des frontières, où il étouffe, comme dans autant de carcans. Une perspective dont on voit, en Europe comme ailleurs, que la bourgeoisie, même quand ses intérêts le nécessiteraient, est congénitalement incapable.